Acte 3, Rue Blas. La salle dite « salle de gouvernement » dans le palais du roi à Madrid. Au fond, une grande porte élevée au-dessus de quelques marches. Dans l'angle à gauche, un pan coupé fermé par une tapisserie de haute lisse. Dans l'angle opposé, une fenêtre. À droite, une table carrée, revêtue d'un tapis de velours vert, autour de laquelle sont rangés des tabourets pour 8 ou 10 personnes, correspondant à autant de pupitres placés sur la table. Le côté de la table, qui fait face aux spectateurs, est occupé par un grand fauteuil recouvert de drap d'or et surmonté d'un dais en drap d'or, aux armes d'Espagne, timbré de la couronne royale. À côté de ce fauteuil, une chaise. Au moment où le rideau se lève, la junte du Despacho Universal, conseil privé du roi, est au moment de prendre séance. Scène première. Don Manuel Arias, président de Castille, Don Pedro Vélez de Guevara, comte de Campo Real, conseiller de cap et d'épée de la Contaduría Mayor, Don Fernando de Cordova y Aguilar, marquis de Priego, même qualité, Antonio Ubila, écrivain mayor des rentes, Montazgo, conseiller de robe de la Chambre des Indes, Covadenga, secrétaire suprême des îles, plusieurs autres conseillers. Les conseillers de robe vêtus de noir, les autres en habits de cour. Campo Real à la croix de Calatrava au manteau. Priego, la toison d'or au cou. Don Manuel Arias, président de Castille, et le comte de Campo Real causent à voix basse, et entre eux, sur le devant. Les autres conseillers font des groupes ça et là dans la salle. Don Manuel Arias. Cette fortune-là cache quelques mystères. Le comte de Campo Real. Il a la toison d'or. Le voilà secrétaire universel, ministre, et puis duc d'Olmedo. Don Manuel Arias. En 6 mois. Le comte de Campo Real. On le serre derrière le rideau. Don Manuel Arias, mystérieusement. La reine. Le comte de Campo Real. Au fait, le roi, malade et fou dans l'âme, vit avec le tombeau de sa première femme. Il abdique, enfermé dans son escurial, et la reine fait tout. Don Manuel Arias. Mon cher Campo Real, elle règne sur nous, et Don César sur elle. Le comte de Campo Real. Il vit d'une façon qui n'est pas naturelle. D'abord, quant à la reine, il ne la voit jamais. Ils paraissent se fuir. Vous me direz non, mais... Comme depuis 6 mois je les guette, et pour cause, j'en suis sûr. Puis il a le caprice morose d'habiter, assez près de l'hôtel de Tormez, un logis aveuglé par des volets fermés, avec 2 laquais noirs, gardeurs de porte close, qui, s'il n'était muet, dirait beaucoup de choses. Don Manuel Arias, des muets. Le comte de Campo Real, des muets. Tous ses autres valets restent au logement qu'il a dans le palais. Don Manuel Arias, c'est singulier. Don Antonio Ubila, qui s'était approché d'eux depuis quelques instants. Il est de grande race, en somme. Le comte de Campo Real. L'étrange, c'est qu'il veut faire son honnête homme. À Don Manuel Arias. Il est cousin, aussi Santa Cruz l'a poussé, de ce marquis Salluste, écroulé l'an passé. Jadis, ce Don César, aujourd'hui notre maître, était le plus grand fou que la lune eût vu naître. C'était un drôle, on sait des gens qui l'ont connu. Qui prit un beau matin son fond pour revenu, qui changeait tous les jours de femme, de carrosse, et dont la fantaisie avait des dents féroces capables de manger en un an le Pérou. Un jour il s'en alla, sans qu'on ait su par où. Don Manuel Arias. L'âge a du fou joyeux fait un sage fort rude. Le comte de Campo Real. Toute fille de joie en séchant devient prude. Ubila. Je le crois, homme probe. Le comte de Campo Real, riant. Oh, candide Ubila, qui se laisse éblouir à ces probités-là. D'un ton significatif. La maison de la reine, ordinaire et civile, appuyant sur les chiffres. Coûte par an 664 066 ducats. C'est un pactole obscur où certes on doit jeter le filet à coup sûr. Au trouble, pêche claire. le marquis de Priego, survenant. « Ah, ça ne vous déplaise! Je vous trouve imprudent et parlant fort à l'aise. Feu, mon grand-père, auprès du comte-duc Nourri, disait « Mordez le roi, baisez le favori !» Messieurs, occupons-nous des affaires publiques. » Tous s'asseyent autour de la table. Les uns prennent des plumes, les autres feuillettent des papiers. Du reste, oisiveté générale. Moment de silence. Montasgo, bas à Ubila.
Je vous ai demandé sur la caisse aux reliques de quoi payer l'emploi d'alcade à mon neveu.
Ubila, bas.
Vous m'aviez promis de nommer avant peu mon cousin Melchior d'Elva, bailli de l'Èbre.
Montasgo se récriant.
Nous venons de doter votre fille. On célèbre encore sa noce.
On est sans relâche assailli. Ubila, bas.
Vous aurez votre alcade.
Montasgo, bas. Et vous, votre bailli. Il se serre la main. Covadenga, se levant.
Messieurs les conseillers de Castille, il importe, afin qu'aucun de nous de sa sphère ne sorte, de bien régler nos droits et de faire nos parts. Le revenu d'Espagne en 100 mains est épars. C'est un malheur public. Il y faut mettre un terme. Les uns n'ont pas assez, les autres trop. La ferme du tabac est à vous, Ubila.
L'indigo et le musc sont à vous, marquis de Priego.
Camporeal perçoit l'impôt des 8 000 hommes. L'Almora rifasgo, le sel, 1000 autres sommes. Le quin du sang de l'or, de l'ambre et du jaillet.
À Montasgo.
Vous qui me regardez de cet œil inquiet.
Vous avez à vous seul, grâce à votre manège, l'impôt sur l'arsenic et le droit sur la neige. Vous avez les ports secs, les cartes, le laiton, l'amende des bourgeois qu'on punit du bâton, la dîme de la mer, le plomb, le bois de rose.
Moi, je n'ai rien, messieurs. Rendez-moi quelque chose.
Le comte de Camporeal éclatant de rire.
Oh, le vieux diable! Il prend les profits les plus clairs. Excepté l'Inde, il a les îles des deux mers. Quelle envergure! Il tient Majorque d'une griffe et de l'autre, il s'accroche au pic de Tenerife.
Covadenga s'échauffant.
« Moi, je n'ai rien !»
Le marquis de Priego riant.
« Il a les nègres !»
Tous se lèvent et parlent à la fois, se querellant. Montasgo.
« Je devrais me plaindre bien plus tôt. Il me faut les forêts !»
Covadenga au marquis de Priego.
« Donnez-moi l'arsenic. Je vous cède les nègres !»
Depuis quelques instants, Ruy Blas est entré par la porte du fond et assiste à la scène sans être vu des interlocuteurs. Il est vêtu de velours noir, avec un manteau de velours écarlate. Il a la plume blanche au chapeau et la toison d'or au cou. Il les écoute d'abord en silence, puis tout à coup, il s'avance à pas lents et paraît au milieu d'eux, au plus fort de la querelle. Scène 2. Les mêmes. Ruy Blas. Ruy Blas survenant.
Bon appétit, messieurs!
Tous se retournent, silence de surprise et d'inquiétude. Ruy Blas se couvre, croise les bras et poursuit en les regardant en face.
Ô ministres intègres, conseillers vertueux, voilà votre façon de servir, serviteurs qui pillez la maison.
Donc vous n'avez pas honte.
Et vous choisissez l'heure sombre où l'Espagne agonisante meurt.
Donc vous n'avez ici pas d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir après. Soyez flétris. Devant votre pays qui tombe, fossoyeur qui venez le voler dans sa tombe. Mais voyez, regardez, ayez quelque pudeur. L'Espagne est sa vertu, l'Espagne est sa grandeur, tout s'en va. Nous avons, depuis Philippe IV, perdu le Portugal, le Brésil, sans combattre. En Alsace-Brisac, Steinfort, en Luxembourg, et toute la comté, jusqu'au dernier faubourg. Le Roussillon, Ormuz, Goa, 5 000 lieues de côte. Et Fernambouc, et les montagnes bleues. Mais voyez, du Ponant jusqu'à l'Orient, l'Europe qui vous hait vous regarde en riant. Comme si votre roi n'était plus qu'un fantôme, la Hollande et l'Anglais partagent ce royaume. Rome vous trompe. Il faut ne risquer qu'à demi une armée en Piémont, quoique pays ami. La Savoie et son duc sont pleins de précipices. La France, pour vous prendre, attend des jours propices. L'Autriche aussi vous guette. Et l'infant bavarois se meurt, vous le savez.
quant à vos vice-rois. Médina fou d'amour, emplit Naples d'esclandres. Vos démons vent Milan, les Gagnès perdent les Flandres. Quel remède à cela? L'État est indigent. L'État est épuisé de troupes et d'argent. Nous avons sur la mer, où Dieu met ses colères, perdu 300 vaisseaux, sans compter les galères. Et vous osez, messieurs, en 20 ans, songez-y, le peuple. J'en ai fait le compte et c'est ainsi, portant sa charge énorme et sous laquelle il ploie. Pour vous, pour vos plaisirs, pour vos filles de joie, le peuple misérable et qu'on pressure encore a sué 430 millions d'or. Et ce n'est pas assez. Et vous voulez, mes maîtres. Ah, j'ai honte pour vous. Au-dedans, routiers, reîtres vont battant le pays et brûlant la moisson. L'escopette est braquée au coin de tout buisson. Comme si c'était peu de la guerre des princes, guerre entre les couvents, guerre entre les provinces. Tous voulant dévorer leurs voisins éperdus, morsure d'affamés sur un vaisseau perdu. Notre église en ruine est pleine de couleuvres, l'herbe y croît. Quant aux grands, des aïeux, mais pas d'œuvre. Tout se fait par intrigue et rien par loyauté. L'Espagne est un égout où vient l'impureté de toute nation. Tout seigneur a ses gages à 100 coupe-jarrets qui parlent sans langage. Génois, sardes, flamands, Babel est dans Madrid. L'algazil, dur aux pauvres, aux riches s'attendrit. La nuit on assassine, et chacun crie à l'aide. Hier on m'a volé, moi, près du pont de Tolède. La moitié de Madrid pille l'autre moitié. Tous les juges vendus, pas un soldat payé. Anciens vainqueurs du monde, Espagnols que nous sommes, quelle armée avons-nous? À peine 6 000 hommes qui vont pieds nus. Des gueux, des juifs, des montagnards, s'habillant d'une loque et s'armant de poignards. Aussi d'un régiment toute bande se double. Sitôt que la nuit tombe, il est une heure trouble où le soldat douteux se transforme en larron. Matalobos a plus de troupes qu'un baron. Un voleur fait chez lui la guerre au roi d'Espagne. Hélas! Les paysans qui sont dans les campagnes insultent en passant la voiture du roi. Et lui, votre seigneur, plein de deuil et d'effroi, seul dans l'Escurial, avec les morts qu'il foule, courbe son front pensif sur qui l'Empire croule. Voilà. L'Europe, hélas, écrase du talon ce pays qui fut pourpre et n'est plus que haillon. L'État s'est ruiné dans ce siècle funeste. Et vous vous disputez à qui prendra le reste. Ce grand peuple espagnol, aux membres énervés, qui s'est couché dans l'ombre et sur qui vous vivez, expire dans cet antre où son sort se termine, triste comme un lion mangé par la vermine. Charles Quint, dans ces temps d'opprobre et de terreur, que fais-tu dans ta tombe, ô puissant empereur? Ô lève-toi, viens voir! Les bons font place aux pires. Ce royaume effrayant, fait d'un amas d'empires, penche! Il nous faut ton bras, au secours, Charles Quint! Car l'Espagne se meurt, car l'Espagne s'éteint. Ton globe, qui brillait dans ta droite profonde, soleil éblouissant qui faisait croire au monde que le jour désormais se levait à Madrid, maintenant astre mort, dans l'ombre s'amoindrit. Lune aux trois quarts rongée et qui décroît encore, et que d'un autre peuple effacera l'aurore. Hélas, ton héritage est en proie aux vendeurs. Tes rayons, ils en font des piastres. Tes splendeurs, on les souille. Ô géant, se peut-il que tu dormes? On vend ton sceptre au poids. Un tas de nains difformes se taille des pourpoints dans ton manteau de roi. Et l'aigle impérial, qui jadis sous ta loi couvrait le monde entier de tonnerre et de flammes, cuit, pauvres oiseaux plumés, dans leur marmite infâme.
Les conseillers se taisent consternés. Seul le marquis de Priego et le comte de Camporeal redressent la tête et regardent Ruy Blas avec colère. Puis Camporeal, après avoir parlé à Priego, va à la table, écrit quelques mots sur un papier, les signe et les fait signer au marquis. Le comte de Camporeal, désignant le marquis de Priego et remettant le papier à Ruy Blas.
« Monsieur le duc, au nom de tous les deux, voici notre démission de notre emploi. »
Ruy Blas, prenant le papier froidement. « Merci. Vous vous retirerez avec votre famille. » À Priego. « Vous en Andalousie. » À Camporeal.
« Et vous, comte, en Castille. Chacun dans vos états. Soyez partis demain. »
Les deux seigneurs s'inclinent et sortent fièrement, le chapeau sur la tête. Ruy Blas se tourne vers les autres conseillers.
« Quiconque ne veut pas marcher dans mon chemin peut suivre ces messieurs. »
Silence dans les assistants. Ruy Blas s'assied à la table, sur une chaise à dossier placée à droite du fauteuil royal, et s'occupe à détacheter une correspondance. Pendant qu'il parcourt les lettres l'une après l'autre, Covadenga, Arias et Huila échangent quelques paroles à voix basse. Huila, à Covadenga, montrant Ruy Blas.
« Fils, nous avons un maître. Cet homme sera grand. »
Don Manuel Arias.
« Oui, s'il a le temps d'être. »
Covadenga.
« Et s'il ne se perd pas à tout voir de trop près. »
Huila.
« Il sera Richelieu. »
Don Manuel Arias.
« S'il naît Olivares. »
Ruy Blas, après avoir parcouru vivement une lettre qu'il vient d'ouvrir.
« Un complot? Qu'est-ce-ci? Messieurs, que vous disais-je? »
Lisant.
« Duc d'Olmedo, veillez. Il se prépare un piège pour enlever quelqu'un de très grand de Madrid. »
Examinant la lettre.
« On ne nomme pas qui? Je veillerai. »
L'écrit est anonyme. Entre un huissier de cour qui s'approche de Ruy Blas avec une profonde révérence.
« Allons, qu'est-ce ? »
L'huissier.
« À votre excellence, j'annonce, monseigneur, l'ambassadeur de France. »
Ruy Blas.
« Ah, d'Harcourt, je ne puis à présent. »
L'huissier s'inclinant.
« Monseigneur, le nonce impérial dans la chambre d'honneur attend votre excellence. »
Ruy Blas.
« À cette heure, impossible. »
L'huissier s'incline et sort. Depuis quelques instants, un page est entré, vêtu d'une livrée couleur de feu à galons d'argent, et s'est approché de Ruy Blas. Ruy Blas l'apercevant.
« Mon page, je ne suis pour personne visible. »
Le page bat.
« Le comte Guritan, qui revient de Neubourg. »
Ruy Blas avec un geste de surprise.
« Ah ! Page, enseigne-lui ma maison du faubourg. Qu'il me vienne trouver demain, si bon lui semble, va. »
Le page sort au conseiller.
« Nous aurons tantôt à travailler ensemble. Dans 2 heures, messieurs, revenez. »
Tous sortent en saluant profondément Ruy Blas. Ruy Blas, resté seul, fait quelques pas en proie à une rêverie profonde. Tout à coup, à l'angle du salon, la tapisserie s'écarte et la reine apparaît. Elle est vêtue de blanc avec la couronne en tête. Elle paraît rayonnante de joie et fixe sur Ruy Blas un regard d'admiration et de respect. Elle soutient d'un bras la tapisserie, derrière laquelle on entrevoit une sorte de cabinet obscur où l'on distingue une petite porte. Ruy Blas, en se retournant, aperçoit la reine et reste comme pétrifié devant cette apparition. Scène 3. Ruy Blas, la reine. La reine.
Oh, merci !
Ruy Blas.
Ciel !
La reine.
Vous avez bien fait de leur parler ainsi. Je n'y puis résister, duc. Il faut que je serre cette loyale main si ferme et si sincère.
Elle marche vivement à lui et lui prend la main, qu'elle presse avant qu'il ait pu s'en défendre. Ruy Blas à part.
La fuir depuis 6 mois et la voir tout à coup.
Oh.
Vous étiez là, madame ?
La reine.
Oui, duc. J'entendais tout. J'étais là. J'écoutais avec toute mon âme.
Ruy Blas montrant la cachette.
« Je ne soupçonnais pas ce cabinet, madame. »
La reine.
« Personne ne le sait. C'est un réduit obscur que Don Philippe III fit creuser dans ce mur, d'où le maître invisible entend tout comme une ombre, Là, j'ai vu bien souvent Charles II, morne et sombre, assister au conseil où l'on pillait son bien, où l'on vendait l'État.
Ruy Blas. Et que disait-il?
La reine.
Rien.
Ruy Blas.
Rien? Et que faisait-il?
La reine.
Il allait à la chasse. Mais vous?
J'entends encore votre accent qui menace. Comme vous les traitiez d'une haute façon, et comme vous aviez superbement raison. Je soulevais le bord de la tapisserie, je vous voyais. Votre œil, irrité sans furie, les foudroyait d'éclairs, et vous leur disiez tout. Vous me sembliez seul être resté debout. Mais où donc avez-vous appris toutes ces choses? D'où vient que vous savez les effets et les causes? Vous n'ignorez donc rien? D'où vient que votre voix parlait comme devrait parler celle des rois? Pourquoi donc étiez-vous, comme eût été Dieu même, si terrible et si grand?
Ruy Blas.
Parce que je vous aime. Parce que je sens bien, moi, qu'ils haïssent tout, que ce qu'ils font crouler s'écroulera sur vous. Parce que rien n'effraie une ardeur si profonde, et que pour vous sauver, je sauverai le monde. Je suis un malheureux qui vous aime d'amour. Hélas, je pense à vous comme l'aveugle au jour. Madame, écoutez-moi. J'ai des rêves sans nombre. Je vous aime de loin, d'en bas, du fond de l'ombre. Je n'oserais toucher le bout de votre doigt, et vous m'éblouissez comme un ange qu'on voit. Vraiment, j'ai bien souffert. Si vous saviez, madame, je vous parle à présent. Si moi, cachant ma flamme, j'ai fui, je vous fuyais et je souffrais beaucoup. Je ne m'occupe pas de ces hommes du tout, je vous aime. Oh mon Dieu, j'ose le dire en face à votre majesté. Que faut-il que je fasse? Si vous me disiez meurs, je mourrais. J'ai l'effroi dans le cœur, pardonnez.
La reine.
Oh, parle. Ravis-moi. Jamais on ne m'a dit ces choses-là, j'écoute. Ton âme en me parlant me bouleverse toute. J'ai besoin de tes yeux, j'ai besoin de ta voix. Oh, c'est moi qui souffrais, si tu savais 100 fois, 100 fois depuis 6 mois que ton regard m'évite. Mais non, je ne dois pas dire cela si vite, je suis bien malheureuse. Oh, je me tais. J'ai peur.
Ruy Blas, qui l'écoute avec ravissement.
Oh, madame, achevez. Vous m'emplissez le cœur.
La reine.
Eh bien, écoute donc.
Levant les yeux au ciel.
Oui, je vais tout lui dire. Est-ce un crime?
Tant pis.
Quand le cœur se déchire, il faut bien laisser voir tout ce qu'on y cachait. Tu fuis la reine? Eh bien, la reine te cherchait. Tous les jours, je viens là, là dans cette retraite, t'écoutant, recueillant ce que tu dis, muette, contemplant ton esprit qui veut, juge et résout, et prise par ta voix qui m'intéresse à tout. Va. Tu me sembles bien le vrai roi, le vrai maître. C'est moi depuis 6 mois, tu t'en doutes peut-être, qui t'ai fait, par degrés, monter jusqu'au sommet. Où Dieu t'aurait dû mettre, une femme te met. Oui, tout ce qui me touche à tes soins, je t'admire. Autrefois une fleur, à présent un empire. D'abord je t'ai vu bon, et puis je te vois grand. Mon Dieu! C'est à cela qu'une femme se prend. Mon Dieu, si je fais mal, pourquoi dans cette tombe m'enfermer, comme on met en cage une colombe? Sans espoir, sans amour, sans un rayon doré. Un jour que nous aurons le temps, je te dirai tout ce que j'ai souffert. Toujours seule, oubliée. Et puis à chaque instant, je suis humiliée. Tiens, juge, hier encore. Ma chambre me déplaît. Tu dois savoir cela, toi qui sais tout. Il est des chambres où l'on est plus triste que dans d'autres. J'en ai voulu changer. Vois quelles fers sont les nôtres. On ne l'a pas voulu. Je suis esclave ainsi.
Duc, il faut. Dans ce but, le ciel t'envoie ici. Sauver l'État qui tremble et retirer du gouffre le peuple qui travaille. Et m'aimer, moi qui souffre. Je te dis tout cela sans suite à ma façon, mais tu dois cependant voir que j'ai bien raison.
Ruy Blas, tombant à genoux.
Madame.
La reine, gravement. Don César, je vous donne mon âme. Reine pour tous, pour vous je ne suis qu'une femme. Par l'amour, par le cœur, duc, je vous appartiens. J'ai foi dans votre honneur pour respecter le mien. Quand vous m'appellerez, je viendrai. Je suis prête. Ô César, un esprit sublime est dans ta tête. Sois fier, car le génie est ta couronne à toi. Elle baise Ruy Blas au front. Adieu. Elle soulève la tapisserie et disparaît. Scène 4. Ruy Blas, seul. Il est comme absorbé dans une contemplation angélique.
Devant mes yeux, c'est le ciel que je vois. De ma vie, ô mon Dieu, cette heure est la première. Devant moi tout un monde de lumière, comme ces paradis qu'en songe nous voyons, s'entr'ouvrent en m'inondant de vie et de rayons. Partout en moi, hors moi, joie, extase et mystère, et l'ivresse et l'orgueil, et ce qui sur la terre se rapproche le plus de la divinité, l'amour dans la puissance et dans la majesté. La reine m'aime, ô Dieu, c'est bien vrai, c'est moi-même. Je suis plus que le roi puisque la reine m'aime. Oh, cela m'éblouit. Heureux, aimé, vainqueur, duc d'Olmedo, l'Espagne à mes pieds, j'ai son cœur. Cet ange qu'à genoux je contemple et je nomme, d'un mot me transfigure et me fait plus qu'un homme. Donc je marche vivant dans mon rêve étoilé. Oh oui, j'en suis bien sûre. Elle m'a bien parlé. C'est bien elle. Elle avait un petit diadème en dentelle d'argent. Et je regardais même pendant qu'elle parlait, je crois la voir encore, un aigle ciselé sur son bracelet d'or. Elle se fie à moi, m'a-t-elle dit. Pauvre ange, aussi l'est vrai que Dieu, par un prodige étrange, en nous donnant l'amour, voulut mêler en nous ce qui fait l'homme grand à ce qui le fait doux. Moi qui ne crains plus rien maintenant qu'elle m'aime, moi qui suis tout-puissant, grâce à son choix suprême, moi dont le cœur gonflé ferait envie au roi, devant Dieu qui m'entend, sans peur, à haute voix, je le dis. Vous pouvez vous confier, madame, à mon bras comme reine, à mon cœur comme femme. Le dévouement se cache au fond de mon amour, pur et loyal. Allez, ne craignez rien.
Depuis quelque instant, un homme est entré par la porte du fond, enveloppé d'un grand manteau, coiffé d'un chapeau galonné d'argent. Il s'est avancé lentement vers Ruy Blas sans être vu. Et au moment où Ruy Blas, ivre d'extase et de bonheur, lève les yeux au ciel, cet homme lui pose brusquement la main sur l'épaule. Ruy Blas se retourne comme réveillé en sursaut. L'homme laisse tomber son manteau et Ruy Blas reconnaît Don Salluste. Don Salluste est vêtu d'une livrée couleur de feu à galons d'argent, pareille à celle du page de Ruy Blas. Scène 5. Ruy Blas, Don Salluste. Don Salluste, posant la main sur l'épaule de Ruy Blas. Bonjour. Ruy Blas effaré, à part.
Grand Dieu, je suis perdu, le marquis.
Don Salluste souriant. Je parie que vous ne pensiez pas à moi. Ruy Blas.
Sa seigneurie, en effet, me surprend.
À part.
Oh, mon malheur renaît. J'étais tourné vers l'ange et le démon venait.
Ils courent à la tapisserie, qui cache le cabinet secret et enferme la petite porte au verrou. Puis il revient tout tremblant vers Don Salluste. Don Salluste.
« Eh bien, comment cela va-t-il »
Ruy Blas, l'œil fixé sur Don Salluste impassible, et comme pouvant à peine rassembler ses idées.
« Cette livrée ?»
Don Salluste, souriant toujours.
« Il fallait du palais me procurer l'entrée. Avec cet habit-là, l'on arrive partout. J'ai pris votre livrée et la trouve à mon goût. »
Il se couvre. Ruy Blas reste tête nue. Ruy Blas.
« Mais j'ai peur pour vous !»
Don Salluste.
« Peur ? Quel est ce mot risible ?»
Ruy Blas.
« Vous êtes exilé. »
Don Salluste.
« Croyez-vous ?
C'est possible. » Ruy Blas.
« Si l'on vous reconnaît au palais, en plein jour. »
Don Salluste.
« Ah bah, des gens heureux qui sont des gens de cour, iraient perdre leur temps, ce temps qui sitôt passe, à se ressouvenir d'un visage en disgrâce. »
D'ailleurs, regarde-t-on le profil d'un valet ? Il s'assied dans un fauteuil et Ruy Blas reste debout.
À propos, que dit-on à Madrid, s'il vous plaît ? Est-il vrai que, brûlant d'un zèle hyperbolique, ici pour les beaux yeux de la caisse publique, vous exilez ce cher Priego, l'un des grands ?
Vous avez oublié que vous êtes parent ?
Sa mère est Sandoval, la vôtre aussi ? Que diable ! Sandoval porte d'or à la bande de sable. Regardez vos blasons, Don César, c'est fort clair.
Cela ne se fait pas entre parents, mon cher. Les loups pour nuire aux loups font-ils les bons apôtres ?
Ouvrez les yeux pour vous, fermez-les pour les vôtres, chacun pour soi.
Ruy Blas se rassurant un peu.
Pourtant, monsieur, permettez-moi. Monsieur de Priego, comme noble du roi, a grand tort d'aggraver les charges de l'Espagne. Or, il va falloir mettre une armée en campagne. Nous n'avons pas d'argent, et pourtant il le faut. L'héritier bavarois penche à mourir bientôt. Hier, le comte d'Arrac, que vous devez connaître, me le disait au nom de l'empereur son maître. Si monsieur l'archiduc veut soutenir son droit, la guerre éclatera.
Don Salluste.
L'air me semble un peu froid. Faites-moi le plaisir de fermer la croisée.
Ruy Blas, pâle de honte et de désespoir, hésite un moment. Puis il fait un effort et se dirige lentement vers la fenêtre, la ferme et revient vers Don Salluste, qui, assis dans un fauteuil, le suit des yeux d'un air indifférent. Ruy Blas, reprenant et essayant de convaincre Don Salluste.
Daignez voir à quel point la guerre est malaisée. Que faire sans argent ? Excellence, écoutez, le salut de l'Espagne est dans nos probités. Pour moi, j'ai, comme si notre armée était prête, fait dire à l'empereur que je lui tiendrai tête.
Don Salluste, interrompant Ruy Blas, et lui montrant son mouchoir qu'il a laissé tomber en entrant.
Pardon, ramassez-moi mon mouchoir.
Ruy Blas, comme à la torture, hésite encore, puis se baisse, ramasse le mouchoir et le présente à Don Salluste. Don Salluste mettant le mouchoir dans sa poche.
« Vous disiez ?»
Ruy Blas avec effort.
« Le salut de l'Espagne !»« Oui, l'Espagne, à nos pieds, et l'intérêt public demande qu'on s'oublie. À toute nation bénie qui la délie. Sauvons ce peuple. Osons être grands et frappons. Ôtons l'ombre à l'intrigue et le masque aux fripons. »
Don Salluste, nonchalamment.
« Et d'abord, ce n'est pas de bonne compagnie. Cela sent son pédant et son petit génie que de faire sur tout un bruit démesuré. Un méchant million, plus ou moins dévoré. Voilà-t-il pas de quoi pousser des cris sinistres ? Mon cher, les grands seigneurs ne sont pas de vos cuistres. Ils vivent largement, je parle sans fébu. Le bel air que celui d'un redresseur d'abus, toujours bouffi d'orgueil et rouge de colère. Mais bah, vous voulez être un gaillard populaire ? Adorer des bourgeois et des marchands d'estoffes, c'est fort drôle. Ayez donc des caprices plus neufs, les intérêts publics. Songez d'abord aux vôtres. Le salut de l'Espagne est un mot creux que d'autres feront sonner, mon cher, tout aussi bien que vous. La popularité ? C'est la gloire en gros sous. Rôdez,
dogue aboyant tout autour des gabelles. Charmant métier. Je sais des postures plus belles. Vertu, foi, probité. C'est du clinquant d'étain. C'était usé déjà du temps de Charles Quint. Vous n'êtes pas un sot, faut-il qu'on vous guérisse du pathos? Vous têtiez encore votre nourrice que nous autres déjà nous avions sans pitié, gaiement à coups d'épingle ou bien à coups de pied, crevant votre ballon au milieu des risées, fait sortir tout le vent de ses bilevesées.
Oui, Blas.
Mais pourtant, monseigneur,
Don Salluste, avec un sourire glacé,
vous êtes étonnant. Occupons-nous d'objets sérieux maintenant.
D'un ton bref et impérieux.
Vous m'attendrez demain toute la matinée, chez vous, dans la maison que je vous ai donnée. La chose que je fais touche à l'événement. Gardez pour nous servir les muets seulement. Ayez dans le jardin, caché sous le feuillage, un carrosse attelé, tout prêt pour un voyage. J'aurai soin des relais. Faites tout à mon gré. Il vous faut de l'argent, je vous en enverrai.
Ruy Blas.
Monsieur, j'obéirai. Je consens à tout faire. Mais jurez-moi d'abord qu'en toute cette affaire, la reine n'est pour rien.
Don Salluste, qui jouait avec un couteau d'ivoire sur la table, se retourne à demi.
De quoi vous mêlez-vous?
Ruy Blas, chancelant et le regardant avec épouvante.
Oh, vous êtes un homme effrayant! Mes genoux tremblent! Vous m'entraînez vers un gouffre invisible! Oh, je sens que je suis dans une main terrible. Vous avez des projets monstrueux. J'entrevois quelque chose d'horrible. Ayez pitié de moi. Il faut que je vous dise. Hélas, jugez vous-même. Vous ne le saviez pas, cette femme.
Je l'aime. Don Salluste froidement.
Mais si je le savais.
Ruy Blas.
Vous le saviez?
Don Salluste.
Par Dieu, qu'est-ce que cela fait?
Ruy Blas, s'appuyant au mur pour ne pas tomber, et comme se parlant à lui-même.
Donc il s'est fait un jeu, le lâche, d'essayer sur moi cette torture. Mais c'est que ce serait une affreuse aventure.
Il lève les yeux au ciel.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon Dieu qui m'éprouvez, épargnez-moi, Seigneur!
Don Salluste.
Ah ça, mais vous rêvez!
Vraiment, vous vous prenez au sérieux, mon maître.
C'est bouffon.
Vers un but que seul je dois connaître, but plus heureux pour vous que vous ne le pensez, j'avance.
Tenez-vous tranquille. Obéissez.
Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, je veux votre bonheur. Marchez, la chose est faite. Puis grand chose après tout que des chagrins d'amour.
Nous passons tous par là. C'est l'affaire d'un jour.
Savez-vous qu'il s'agit du destin d'un empire? Qu'est le vôtre à côté?
Je veux bien tout vous dire, mais ayez le bon sens de comprendre aussi, vous. Soyez de votre état. Je suis très bon, très doux, mais que diable! Un laquais, d'argile humble ou choisie, n'est qu'un vase où je veux verser ma fantaisie. De vous autres, mon cher, on fait tout ce qu'on veut. Votre maître, selon le destin qu'il émeut, à son gré vous déguise, à son gré vous démasque. Je vous ai fait seigneur, c'est un rôle fantasque. Pour l'instant, vous avez l'habillement complet. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes mon valet. Vous courtisez la reine ici par aventure, comme vous monteriez derrière ma voiture.
Soyez donc raisonnable. Ruy Blas, qui l'a écouté avec égarement et comme ne pouvant en croire ses oreilles.
Oh mon Dieu, Dieu clément, Dieu juste! De quel crime est-ce le châtiment? Qu'est-ce donc que j'ai fait? Vous êtes notre père et vous ne voulez pas qu'un homme désespère. Voilà donc où j'en suis. Et volontairement, et sans tort de ma part, pour voir, uniquement pour voir agoniser une pauvre victime, monseigneur. Vous m'avez plongé dans cet abîme. Tordre un malheureux cœur plein d'amour et de foi afin d'en exprimer la vengeance pour soi.
se parlant à lui-même. Car c'est une vengeance. Oui, la chose est certaine. Et je devine bien que c'est contre la reine. Qu'est-ce que je vais faire? Aller lui dire tout? Ciel. Devenir pour elle un objet de dégoût et d'horreur, un crispin, un fourbe à double face, un effronté coquin qu'on bâtonne et qu'on chasse. Jamais. Je deviens fou, ma raison se confond. Une pause, il rêve. Oh mon Dieu! Voilà donc les choses qui se font. Bâtir une machine effroyable dans l'ombre, l'armée hideusement de rouages sans nombre, puis sous la meule, afin de voir comment elle est. Jeter une livrée, une chose, un valet, puis la faire mouvoir, et soudain sous la roue voir sortir des lambeaux teints de sang et de boue. Une tête brisée, un cœur tiède et fumant. Et ne pas frissonner alors qu'en ce moment on reconnaît, malgré le mot dont on le nomme, que ce laquais était l'enveloppe d'un homme. Se tournant vers Don Salluste. Mais il est temps encore. Oh, monseigneur, vraiment, l'horrible roue encore n'est pas en mouvement. Il se jette à ses pieds. Ayez pitié de moi, grâce. Ayez pitié d'elle. Vous savez que je suis un serviteur fidèle, vous l'avez dit souvent. Voyez, je me soumets. Grâce. Don Salluste. Cet homme-là ne comprendra jamais, c'est impatientant. Ruy Blas se traînant à ses pieds. « Grâce !» Don Salluste. « Abrégeons, mon maître !» Il se tourne vers la fenêtre. « Gageons que vous avez mal fermé la fenêtre. Il vient un froid par là. » Il va à la croisée et la ferme. Ruy Blas se relevant. « Oh, c'est trop ! À présent, je suis duc d'Olmedo, ministre tout-puissant. Je relève le front sous le pied qui m'écrase. » Don Salluste. Comment dit-il cela?
Répétez donc la phrase. Ruy Blas, duc d'Olmedo.
Vos yeux ont un bandeau. Ce n'est que sur Bazan qu'on a mis Olmedo. Ruy Blas. Je vous fais arrêter. Don Salluste. Je dirai qui vous êtes. Ruy Blas exaspéré. Mais, Don Salluste, vous m'accuserez. J'ai risqué nos deux têtes, c'est prévu. Vous prenez trop tôt l'air triomphant. Ruy Blas. Je nierai tout. Don Salluste. Allons, vous êtes un enfant. Ruy Blas. Vous n'avez pas de preuves. Don Salluste. Et vous pas de mémoire? Je fais ce que je dis et vous pouvez m'en croire. Vous n'êtes que le gant et moi je suis la main.
Bas et se rapprochant de Ruy Blas. Si tu n'obéis pas, si tu n'es pas demain chez toi pour préparer ce qu'il faut que je fasse, si tu dis un seul mot de tout ce qui se passe, si tes yeux, si ton geste en laisse rien percer, celle pour qui tu crains, d'abord, pour commencer, par ta folle aventure en 100 lieues répandue, sera publiquement diffamée et perdue. Puis elle recevra, ceci n'a rien d'obscur, sous cachette un papier que je garde en lieu sûr. Écrit, te souvient-il avec quelle écriture? Signé, tu dois savoir de quelle signature. Voici ce que ses yeux y liront. Moi, Ruy Blas, laquais de Monseigneur le Marquis de Finlas, en toute occasion ou secrète ou publique, m'engage à le servir comme un bon domestique. Ruy Blas, brisé et d'une voix éteinte.
Il suffit. Je ferai, monsieur, ce qu'il vous plaît.
La porte du fond s'ouvre. On voit rentrer les conseillers du conseil privé. Don Salluste s'enveloppe vivement de son manteau. Don Salluste bat.
On vient.
Il salue profondément Ruy Blas.
Oh, monsieur le duc, je suis votre valet.
Il sort.